Pierre, l'introduction, enfin toute la première partie de Martin Bouygues et puis sa conclusion se passe sur le même pupitre, celui de droite. Il n'a pas besoin de changer de pupitre.
Dans la foulée, en fait, hein.
Comment?
Il fait tout dans la foulée.
Pas tout à fait. Il s'arrête quand même entre les deux, 5 minutes, de façon à ce que.
Ouais, pas 5 minutes.
De 2 secondes, quoi. Mais enfin, avec.
Oui, il faut que je lui dise de marquer une pause.
Exactement.
Après.
Avant les perspectives. Pierre, on va mettre le boîtier d'avancement des diapos.
Non, Martine, viens.
Ouais, Pierre. On va mettre le boîtier d'avancement des diapos sur le desk de Martin. Comme ça, tu lui proposes. Soit je passe les diapos, soit il les passe lui.
Il
comme
les passe jamais, les diapos, Martin.
Comment?
Il ne les passe jamais.
Ça dépend.
temps, sinon c'est Charles-Henri qui les passe dans la régie.
Monsieur, bonjour.
Hop. La seule consigne, Martin, c'est juste quand vous aurez terminé la première partie là, sur les chiffres clés, vous allez passer la parole à Philippe Bonnard. Il faudrait que vous arrêtiez
une petite pause.
Une minute et puis après on prend les perspectives.
Voilà. D'accord. Alors attendez, je reprends le truc sur Olivier. Quand vous êtes prêt, vous me dites.
C'est prêt quand vous voulez.
Mesdames, messieurs, bonjour. À nouveau, un conseil de groupe un peu exceptionnel, en effet. Compte tenu des circonstances sanitaires, nous avons pris la décision, comme la fois passée, d'enregistrer ce conseil de groupe et de le mettre à votre disposition, ainsi enregistré. En tout premier lieu, je voudrais rendre hommage à mon frère Olivier Bouygues. Vous le savez, c'est mon complice depuis bien longtemps. Nous travaillons ensemble au quotidien depuis de très nombreuses années. Il est mon aîné. Il est atteint par la limite d'âge statutaire, la limite d'âge que les statuts de Bouygues ont prévue. Il va avoir 70 ans dans quelques jours. Et donc, il quitte ses fonctions opérationnelles, ou il a quitté ses fonctions opérationnelles au sein du groupe Bouygues depuis le 1er septembre. Olivier, c'est un ingénieur de l'Institut français du pétrole. Il a fait toute sa carrière dans le groupe, chez Bouygues Offshore, dans différents métiers opérationnels. Et puis, il est venu, au niveau de la direction générale du groupe, à mes côtés, renforcer nos capacités dans un certain nombre de domaines. Et je voudrais à nouveau lui rendre hommage. Alors, il ne nous quitte pas vraiment. Il est avec... au sein de SLM, vous savez, c'est la holding que nous avons en commun de contrôle du groupe Bouygues, eh bien, il a des responsabilités importantes dans le développement de SLM et il restera, bien entendu, administrateur du groupe Bouygues au sein du conseil d'administration. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage, le remercier pour cette carrière importante et surtout son appui indéfectible à mes côtés qui est quelque chose de tout à fait important pour moi. Il restera avec son fils, Cyril, évidemment très attentif à l'avenir de notre groupe. Alors je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, revenir à la situation du groupe. Vous vous en souvenez peut-être, lors du dernier conseil de groupe, le 15 mai 2020, nous avions dressé un premier état des lieux de la situation économique mondiale consécutive à la pandémie de Covid. L'incertitude économique que nous évoquions n'est malheureusement pas levée. Elle reste bien sûr dépendante de l'évolution de la situation sanitaire, mais aussi de l'efficacité des politiques monétaires, des plans de relance des États et du comportement des différents acteurs économiques. Le premier document qui vous est présenté fait un état de la pandémie à ce jour. Le nombre de morts, qui est évidemment une estimation, est aujourd'hui supérieur à 800 000, soit 430 000 de plus en seulement 3 mois. Et le nombre de personnes contaminées serait de 24,5 millions, soit 19 millions de plus en 3 mois. Ces chiffres sont bien évidemment à relativiser dans la mesure où ils sont la résultante de publications des différents pays dont les méthodes de calcul ou de collecte d'informations sont évidemment très disparates. Pour anecdote, j'attire votre attention sur le cas de la Chine. Voilà enfin un pays qui annonçait courant mai 4633 morts au titre de la pandémie de Covid-19 sur tout son territoire, je rappelle où il y a plus d'1,4 milliard d'habitants, et à fin août, elle annonce 4634 décès, soit un de plus, ce qui est une très belle performance, mais malgré tout, je pense que le doute peut exister. La réponse à cette pandémie a été un confinement quasi général des populations. Au plus fort du confinement, 60% de la population mondiale a été à l'arrêt, ce qui représente 4,5 milliards d'individus. Néanmoins, les contraintes imposées étaient différentes d'un pays à l'autre. Il convient donc d'être prudent dans la comparaison des nombres de jours confinés. Le graphique du haut présente les durées de confinement des pays du G20. Le graphique du bas a été établi par l'Université d'Oxford. La situation à l'écran est celle au 1er mai. Ce graphique est particulièrement intéressant car il quantifie l'intensité des mesures prises dans chacun de ces pays et permet donc une comparaison assez pertinente. L'Université d'Oxford a retenu 9 critères dont vous avez la liste à l'écran. Ces critères sont mesurés sur une échelle mondiale. On peut citer par exemple les critères suivants: la fermeture des écoles, la fermeture des lieux de travail, la fermeture des transports publics, la limitation des vols internationaux ou encore l'obligation de confinement à domicile. Ces deux graphiques mettent bien en évidence la singularité du confinement français. La France a connu un confinement d'une durée dans la moyenne des pays du G20, puisque nous sommes 11e dans le confinement le plus long, c'est donc ni le premier ni le dernier, mais parmi les plus intenses dans ses contraintes. La France cochait en effet tous les critères d'évaluation d'indice de l'Université d'Oxford, et notamment l'obligation de confinement au domicile, ce qui la classe dans les toutes premières nations en termes d'intensité des mesures prises. Ce confinement quasi mondial a provoqué du jour au lendemain un arrêt de la production mondiale avec une conséquence immédiate sur la croissance. L'économie mondiale a ainsi été entraînée dans une crise économique aussi importante que brutale. Les premières publications de croissance au deuxième trimestre sont sans surprise catastrophiques. C'est le choc économique le plus important par son ampleur et sa rapidité quasi immédiate depuis la crise de 1929. Aux États-Unis, le PIB a chuté de 32,9% en rythme annualisé, soit moins 9,5% en variation trimestrielle, c'est le graphique en haut à gauche. Au plus fort de la crise des subprimes, la chute en rythme annualisé n'était que de 8,2% contre 32,9% aujourd'hui. En Europe, la situation est également inquiétante avec des contractions de PIB records au deuxième trimestre. La baisse du PIB a atteint 12,1% dans la zone euro, c'est le graphique en haut à droite, 10,1% en Allemagne, graphique en bas à gauche, et 13,8% en France, graphique en bas à droite. Pour mémoire, les chutes records en 2008-2009 étaient de moins 3,1% pour la zone euro, moins 7,9% pour l'Allemagne et moins 1,7% pour la France. La situation au sein des autres pays du G20 n'est guère plus reluisante. Sur le graphique qui vous est présenté en haut de l'écran, vous trouverez les variations de PIB au deuxième trimestre 2020 des 11 pays du G20. Ceux qui ont évidemment publié des chiffres à ce jour. À noter le moins 20% au Royaume-Uni. Seule la croissance chinoise est positive à plus de 3,2%. Il convient cependant de relativiser car le FMI prévoyait en début d'année une croissance de 6% pour la Chine sur cette année. Le graphique du bas permet de quantifier l'impact sur le PIB de l'intensité des mesures prises durant le confinement. Sans surprise, on constate une corrélation inverse entre l'intensité du confinement, selon les 9 critères dont nous parlions précédemment, et la variation du PIB au cours du deuxième trimestre. Vous noterez deux extrêmes sur la droite de régression. La France, avec un indice d'intensité de 91 sur 100 qui a conduit à une baisse du PIB au deuxième trimestre de 13,8%. La Corée du Sud, avec un indice d'intensité de 44 sur 100, les mesures comprenaient un contrôle strict aux frontières, un dépistage massif, une distribution de masques, une campagne de désinfection intense, mais pas de confinement généralisé à domicile. La baisse du PIB au deuxième trimestre s'est limitée à moins 3,3%. Le graphique à l'écran vous présente l'évolution des prévisions de croissance établies par le FMI pour l'exercice 2020. Le FMI a revu ses prévisions le 24 juin. Elle se montre encore plus pessimiste que lors de sa publication du 14 avril. Le FMI anticipe une contraction de croissance mondiale de près de 5% contre 3% en avril. Pour mémoire, il anticipait une croissance de 3,3% en janvier. Sur le graphique, les bâtons bleus correspondent aux prévisions établies avant la crise du Covid, en janvier 2020. Les bâtons oranges aux prévisions établies en avril 2020. Et enfin, les bâtons rouges aux prévisions actualisées en juin 2020. Pour la France, la chute du PIB serait de 12,5% en 2020. Parmi les pays affichés, seule l'Italie fait pire, avec moins 12,8%. Les États-Unis seraient impactés à hauteur de 8% contre moins 5,9% attendu en avril. La Chine conserve une croissance légèrement positive à 1% à comparer avec une prévision de 6% en janvier. Espérons que les prochaines prévisions du FMI attendues en octobre se montrent moins pessimistes que celles de juin, mais là encore, rien n'est garanti. Le choc de cette pandémie sur le marché de l'emploi américain s'est avéré immédiat. Il est inédit dans l'histoire. Le contexte est d'une brutalité tout à fait exceptionnelle. En effet, le taux de chômage a été multiplié par 4 en 2 mois, passant de 3,5% en février 2020 à 14,7% en avril 2020. En juillet, ce chiffre est certes retombé autour des 10%, mais reste tout de même supérieur à celui atteint lors de la crise financière de 2008. Le graphique du bas montre les inscriptions aux allocations chômage. En l'espace de seulement 7 semaines, 33 millions d'emplois ont été détruits, soit plus que le nombre de créations depuis la crise de 2008, c'était 22 millions de créations. Le pic d'avril est malheureusement complété les mois suivants par des inscriptions aux allocations chômage qui restent à des niveaux historiquement élevés. 1,2 million d'inscriptions pour la semaine du 31 juillet contre 218 000 en moyenne en 2019. Pour les entreprises, le contexte est aussi d'une brutalité exceptionnelle. Euler Hermès a compté la faillite de 147 entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 50 millions d'euros au deuxième trimestre 2020 dans le monde, soit le double de la même période en 2019. Vous avez à l'écran le taux de défaut sur 12 mois, analysé cette fois par Moody's. Ce graphique présente le taux de défaut des entreprises noté dans la catégorie dite « non-investment grade », c'est-à-dire la catégorie spéculative. C'est la catégorie des entreprises qui ont des notes inférieures à BBB-. Il s'agit d'entreprises considérées comme fragiles par Moody's et donc les premières vulnérables, évidemment. À fin juillet, le taux de défaut ressort à 6,1%, à comparer avec une moyenne historique de 4,1%. Nous ne sommes malheureusement qu'au début des défaillances. Moody's a fait des projections. Le scénario de base fait ressortir un pic à 9,3% au premier trimestre 2021 et à 15,5% dans le scénario le plus pessimiste, soit un niveau bien supérieur au pic de 13% en 2019. Comme nous venons de le voir, le FMI est extrêmement pessimiste. Les indicateurs avancés de chômage aux États-Unis sont à des niveaux élevés. Les agences de notation prévoient une hausse du taux de défaut des entreprises. Pourtant, dans le même temps, les marchés boursiers ont quasiment retrouvé les niveaux d'avant-crise. Et certains d'entre eux connaissent même des records historiques. C'est paradoxal. Après une chute historique entre février et mars et mi-mars 2020, moins 34% pour le Standard & Poor's et moins 40% pour le CAC, les marchés boursiers ont connu une reprise tout aussi historique entre mi-mars et aujourd'hui. Il s'agit de plus 57% pour le Standard & Poor's et plus 34% pour le CAC. Si le Standard & Poor's a connu la baisse la plus rapide de son histoire, moins 34% en 22 séances, il a également retrouvé ses niveaux d'avant-crise en seulement 5 mois. Les crises précédentes ont mis plus de temps à se résorber sur les marchés car il s'agissait de phénomènes liés à des dérèglements de marché ou à des crises financières. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un phénomène exogène au marché, une pandémie qui a des conséquences sur les marchés financiers. Ainsi, le Standard & Poor's retrouve ses niveaux d'avant-crise, avant même une hausse de 7% sur l'année. Le CAC est un peu à la traîne, avec moins 17%. Ce différentiel de performance entre le Standard & Poor's 500 et les indices européens s'explique en grande partie par la part importante des entreprises technologiques dans l'indice phare américain. Comme le montre le ratio cours-bénéfice, qui est la graphique du bas, extrêmement élevé de l'indice technologique, c'est le ratio le plus haut depuis 16 ans. Le Nasdaq, qui regroupe uniquement les entreprises technologiques, s'est apprécié de 35% depuis le début de l'année. Le marché de la dette a de son côté connu une situation tout aussi inédite par la fermeture du marché monétaire pendant 2 semaines au cours du mois de mars. En effet, je vous rappelle que les banques ne pouvant plus se financer au jour le jour, hors des banques centrales, il était également impossible pour les entreprises d'émettre des billets de trésorerie. Vous savez, les billets de trésorerie, ça équivaut à des emprunts obligataires à court terme pour les entreprises. Et donc tout cela n'a pas pu se faire au cours des 2 semaines allant du 16 au 27 mars. Du côté des emprunts long terme, les marchés ont continué de fonctionner, mais avec mi-mars, des spreads en forte hausse, c'est le graphique du haut, et une hiérarchisation des signatures qui permettait néanmoins aux sociétés bien notées d'émettre à des conditions tout à fait satisfaisantes. Mais au contraire, les sociétés non investment grade, c'est-à-dire les moins performantes, devaient payer des taux très élevés jusqu'à 900 points de base au-delà du taux interbancaire. Aujourd'hui, les spreads obligataires sont globalement redevenus à des niveaux proches du début 2020, sur le graphique en haut à droite. Malgré tout, une hiérarchisation plus marquée entre les bonnes et les moins bonnes signatures. Les émissions se passent correctement. Vous le voyez à l'exception des signatures high yield qui ont aujourd'hui encore plus de mal à se refinancer, c'est évident. Pour mémoire, je vous rappelle que notre groupe, qui est noté A- chez Standard & Poor's et A3 chez Moody's, a émis un emprunt obligataire d'€1 milliard à échéance de 8 ans et 3 mois avec un coupon de 1,125%, soit le coupon le plus bas que Bouygues n'ait jamais émis dans ses dettes. La conséquence la plus criante sur les marchés est l'envolée de l'or, valeur refuge par excellence. Le cours de l'or a dépassé son plus haut niveau, qui datait de septembre 2011, en franchissant la barre des $2000 l'once le 4 août. Depuis le début de l'année, le cours de l'or a bondi de 34%. Cette hausse vient en complément de celle que nous avons connue en 2018 et 2019, qui conduit à une hausse totale de plus 56% depuis 2018. Les raisons initiales de cette hausse étaient les tensions USA-Chine et les taux réels négatifs consécutifs des politiques monétaires accommodantes. À toutes ces raisons s'ajoutent évidemment désormais les inquiétudes liées à la pandémie actuelle. Les banques centrales se sont montrées très réactives dès le mois de mars 2020. Ainsi, en réponse à cette situation, la Fed a utilisé tous les leviers à sa disposition. Je vous le rappelle, baisse du taux directeur à 0%, donc un retour à la situation de 2009, comme le montre le graphique du haut, rachat massif d'actifs, $800 milliards en 4 semaines, alors que pour la crise des subprimes, ce montant avait été investi, certes, mais en 2 ans. Et enfin, pour la première fois, achat sur le marché secondaire d'obligations non-investment grade pour parer au risque de baisse massive des notes octroyées par les agences. De son côté, la BCE n'a pas modifié ses taux directeurs dans la mesure où ils étaient déjà au plus bas, 0% pour le taux de refinancement et à moins 0,5% pour le taux des dépôts. Mais la BCE a étendu en mai son enveloppe de rachat massif d'actifs à 1 350 milliards d'euros à horizon 2021. Tout comme la Fed, la BCE a donc su intervenir très rapidement. La réponse ainsi donnée par ces deux banques centrales s'est avérée efficace sur les marchés financiers, comme on l'a vu par la réouverture du marché monétaire et le rebond des marchés actions. Mais à quel prix ? Depuis le début de l'année, la Fed a multiplié par 1,7 son bilan et la Banque centrale européenne par 1,4. Comme les banques centrales, les États interviennent de manière massive. Les États-Unis ont voté plusieurs plans de relance pour un total de 2 900 milliards de dollars, soit 15 points de PIB, et des discussions sont en cours au Congrès pour un plan additionnel de 1 000 milliards de dollars. Pour comparaison, en 2007-2008, environ 1 500 milliards de dollars avaient été consacrés à la relance de l'économie. L'Union européenne a quant à elle voté un plan de 540 milliards d'euros en avril et un plan de 750 milliards d'euros en juillet versus 200 milliards d'euros en 2008. Pour la première fois, avec ce plan de 750 milliards d'euros, l'Europe va lever une dette commune. Sur ces 750 milliards d'euros, 360 milliards d'euros sont des prêts et 390 milliards d'euros sont des subventions. L'Espagne et l'Italie vont recevoir 60 millions d'euros de subventions, la France 40 milliards d'euros. Ces plans de relance ont pour conséquence une augmentation de la dette publique qui, combinée avec les chutes du PIB au deuxième trimestre 2020, fait grimper les ratios dette-PIB à des niveaux très élevés. La dette publique des États-Unis représentait ainsi 136% du PIB à fin juin 2020. Pour la zone euro, elle représenterait environ 109% du PIB en prenant en compte les deux plans de relance de l'Union européenne et la chute de 12,1% du PIB au deuxième trimestre 2020. La dette de la France devrait représenter à la fin d'année 120% du PIB, dont 20 points au titre de cette pandémie. Alors, la conclusion de tout ça, eh bien, vous le savez, la reprise est incertaine, on l'a bien vu. La pandémie a été jugulée dans un premier temps de manière assez spectaculaire, mais malgré tout, nous le voyons encore actuellement, il subsiste des points d'inquiétude, c'est-à-dire que des clusters, c'est-à-dire les foyers tels qu'on les définit, sont actuellement encore détectés de manière assez importante. Cela veut dire, en contrepartie, que plus que jamais, nous devons être attentifs à préserver les gestes barrières, à être attentifs aux autres, à porter des masques, à faire en sorte que nous puissions préserver l'état sanitaire de nos collaborateurs, de nos familles et de ceux qui nous entourent de la manière la meilleure possible. On peut imaginer que cette crise sanitaire va durer encore plusieurs mois. Je rappelle que la grippe espagnole, il y a un siècle, a mis 2 ans avant de se résorber. Donc on peut imaginer que c'est un peu un schéma traditionnel de ce type de pandémie. On est maintenant à 1 année, il est probable que les choses vont s'améliorer petit à petit, en sifflet, mais que malgré tout, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Nous devons veiller à respecter les gestes sanitaires au bureau. Nous devons utiliser le télétravail de manière intelligente et ordonnée, comme nous l'avons organisé. Mais nous devons aussi veiller à ce que sur nos chantiers, partout où nous travaillons, dans les ateliers, dans les usines, nous puissions garantir l'intégrité de nos collaborateurs, c'est-à-dire faire en sorte que les mesures de prévention et les moyens mis à leur disposition leur permettent d'assurer le plus de sécurité possible. La reprise est donc incertaine, mais elle dépendra de multiples facteurs. Bien entendu, je viens de l'évoquer, l'évolution de la situation sanitaire, l'efficacité des politiques de relance, il est encore trop tôt, on a parlé de chiffres globaux, mais on n'a pas encore vu de quoi va être fait les plans de relance en France et en Europe, du comportement des acteurs économiques, il s'agit des entreprises, des ménages. Si les entreprises n'investissent plus et les ménages ne consomment plus, je pense que nous serons confrontés à un vrai problème. Et puis enfin, du degré de coopération internationale. En vous évoquant cette phrase, je pense évidemment aux difficultés avec la Chine. J'ai vu un responsable politique français, récemment, de très haut niveau, évoquer une nouvelle guerre froide entre la Chine et l'Occident. Je crains que malheureusement, on s'oriente vers cela. Je rappelle que la première guerre froide, c'était entre l'Union soviétique et l'Occident. C'était une guerre froide qui avait reposé sur deux piliers, un pilier idéologique et un pilier militaire. Avec la Chine, on risque d'être sur un pilier idéologique, une idéologie différente, mais malgré tout idéologique, un pilier économique et un pilier militaire. Donc je pense qu'on va vers quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes et qu'il ne faut pas sous-estimer. Enfin, évidemment, la matérialisation de la reprise reste évidemment inconnue. Moi, personnellement, je ne suis incapable de vous faire des plans pour vous dire quelle va être l'intensité de cette reprise et comment elle va se faire. Ce que je pense, c'est que nous, chez Bouygues, plus que jamais, nous devons être opportunistes, nous devons être réactifs, nous devons être présents, nous devons être aux côtés de nos clients, nous devons être inventifs, trouver des solutions, de trouver des solutions pour leur permettre de réaliser leurs projets dans la meilleure condition possible. Nous devons être à leur côté pour comprendre leurs difficultés. Voilà, je vais maintenant aborder le problème des faits marquants et des chiffres clés. Alors, vous le voyez, le premier semestre est bien évidemment marqué par la pandémie du Covid-19. Toutefois, en dépit du fort impact de la crise sanitaire, le groupe affiche au deuxième trimestre un résultat opérationnel courant positif, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Par ailleurs, le groupe est bien armé pour traverser cette crise grâce à une structure financière particulièrement solide et une liquidité qui se maintient au niveau élevé de 11,1 milliards d'euros à fin juin. Nos activités de construction disposent d'un carnet de commandes record qui offre une bonne visibilité sur l'activité à venir. Fait marquant du deuxième trimestre 2020, Colas affiche un résultat opérationnel courant positif grâce au redémarrage rapide de ses activités. Enfin, Bouygues Télécom connaît, depuis la fin du confinement, une dynamique commerciale soutenue. Le chiffre d'affaires service et l'EBITDA après loyer sont en forte croissance de respectivement 8 et 9% sur un an. Je vous rappelle que Bouygues Télécom a signé avec le Crédit Mutuel un protocole d'exclusivité en vue de l'acquisition d'EIT, qui est le premier MVNO du marché français, et de la signature d'un partenariat de distribution. Tout cela est donc de nature à soutenir la croissance de notre activité télécom dans les prochaines années. Comme attendu, la crise sanitaire a eu un fort impact sur les résultats semestriels du groupe. Le chiffre d'affaires est en baisse de 15% sur un an, soit moins de 2,7 milliards d'euros, expliqué intégralement par le Covid-19, dont nous avons estimé l'impact à environ 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires recule fortement en France de 19% en raison d'un confinement strict suivi d'un redémarrage progressif de nos activités. À l'international, il baisse de seulement 10%, impacté par le ralentissement de l'activité et le confinement dans plusieurs pays où le groupe est présent. La crise sanitaire explique intégralement le recul de 585 millions d'euros du résultat opérationnel courant au premier semestre 2020. Hors Covid, il aurait été en hausse d'environ 65 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Après avoir atteint un point bas en avril, le résultat opérationnel courant du groupe est redevenu positif à compter du mois de juin. Enfin, le résultat net part du groupe est également en fort repli dans ce contexte. Il est à noter que le résultat opérationnel courant du groupe est positif au deuxième trimestre 2020 à 110 millions d'euros, ce dont évidemment il faut se réjouir. Cette performance est liée à la forte réactivité des métiers, en particulier Bouygues Télécom, dont le résultat opérationnel courant s'améliore sur un an, tiré notamment par la croissance de sa base client d'une part et de la BPU d'autre part. TF1 qui réalise des économies significatives sur le coût de ses programmes et Colas qui a redémarré rapidement ses chantiers dans la route, notamment en métropole et au Canada. Comme vous le voyez, Bouygues dispose à fin juin 2020 d'une trésorerie disponible élevée de 11,1 milliards d'euros. Elle est en forte augmentation de 2,7 milliards d'euros par rapport à fin juin 2019. Elle se compose de 4,4 milliards d'euros de trésorerie et de 6,7 milliards d'euros de lignes de crédit non utilisées, dont 6,3 milliards d'euros sans covenante. L'échéancier de remboursement est très bien réparti et intègre le nouvel emprunt obligataire d'un milliard d'euros réalisé le 7 avril dernier, comme je l'ai évoqué précédemment. Je vous précise également que le groupe a remboursé 1 milliard d'euros d'obligations en juillet. Ce montant est donc toujours inclus dans l'échéancier au 30 juin, naturellement. Cette position élevée contribue à la solidité financière du groupe. À 3,9 milliards d'euros, la dette nette au 30 juin 2020 s'améliore par rapport au 30 juin 2019. Elle intègre notamment l'impact positif d'Alstom lié aux dividendes perçus et à la cession partielle de notre participation en septembre 2019. À cette dette nette à fin juin, ne prend pas en compte deux éléments. Le versement d'un dividende de 1,7 euros par action qui sera proposé à l'Assemblée générale de cette semaine pour un paiement de le 11 septembre. Et l'acquisition d'EIT par Bouygues Télécom qui devrait se concrétiser au quatrième trimestre de cette année. Vous le voyez sur cette carte, Bouygues a des variations qui sont très proches de l'Eurostock 50, donc pas de grandes difficultés de ce côté-là. Nous allons maintenant passer la revue opérationnelle des métiers et je vais d'abord, en tout premier lieu, passer la parole à Philippe Bonnave qui va vous faire une revue des performances de Bouygues Construction. À vous, Philippe. Ça vous va ? Alors, on va faire maintenant la conclusion. On peut y aller ? Très bien. Je vais à présent, pour conclure, vous présenter les projections du groupe telles que nous les avons présentées au marché la semaine dernière. Tout d'abord, je voudrais vous dire que la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences confortent évidemment nos choix stratégiques. Nous souhaitons en effet renforcer les métiers plus résilients du groupe. Je pense à Bouygues Télécom d'une part et les activités énergie et services d'autre part. Nous voulons également poursuivre le développement de Colas en étendant son réseau à l'international par croissance externe dans les pays ciblés et en valorisant ses activités industrielles qui sont les carrières et les bitumes. TF1 et Bouygues Immobilier doivent continuer leur transformation. Pour TF1, il s'agit de renforcer son positionnement dans la chaîne de valeur pour réduire sa dépendance au marché publicitaire et pour Bouygues Immobilier, redresser son activité et sa rentabilité. Enfin, nous voulons accélérer notre transformation digitale en développant des produits et des solutions innovantes et en faisant évoluer nos organisations et nos méthodes de travail. Dans ce contexte inédit, le groupe reste convaincu de la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle étape de sa stratégie climat. Elle passe par la réduction de l'empreinte à effet de l'empreinte carbone et de ses activités et le renforcement, pardon, je recommence à partir, non, pas tout, cette page-là, j'allais faire un montage, vous êtes doué. pas pratique, j'ai des pages qui sont... Alors, c'est la slide où le groupe maintient son ambition. C'est la slide d'après. Voilà. Le groupe maintient son ambition de mettre en œuvre une nouvelle étape dans sa stratégie climat. Dans ce contexte inédit, nous pensons que nous devons mettre en œuvre une nouvelle étape. Elle passe par la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et le renforcement de son portefeuille de solutions bas carbone. Le groupe confirme la définition en 2020 d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et que cet objectif soit parfaitement compatible avec l'accord de Paris et l'établissement en 2020 d'un plan d'action pour nos 5 métiers. Pour ce qui concerne les objectifs financiers du groupe, je vous rappelle qu'ils ont été annulés en avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020. Toutefois, grâce à la réactivité des métiers et aux mesures prises, le groupe devrait redevenir largement profitable au deuxième semestre 2020, sans toutefois retrouver les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019. Bouygues Télécom, pour sa part, démontre sa résilience dans cette crise inédite. Il poursuit sa stratégie de croissance et choisit de maintenir un niveau d'investissement élevé pour renforcer la qualité de ses réseaux dans un contexte d'augmentation continue des usages. En conséquence, il revoit ses objectifs pour 2020. Sur la base des éléments connus à date et bien sûr hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la pandémie, il prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires service d'environ 4% en dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires roaming en lien avec le Covid-19. Des investissements bruts pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros, y compris des investissements nécessaires à l'intégration d'EIT, mais évidemment sort l'investissement d'achat des fréquences 5G puisqu'il s'agit d'une compétition dont nous ne connaissons pas les montants. Et un cash flow libre d'environ 250 millions d'euros. En conclusion, Bouygues est bien armé pour affronter cette crise inédite. Les tendances de long terme sur lesquelles s'appuie le groupe restent porteuses, car chacun de nos métiers répond à des besoins essentiels. Après un premier semestre 2020 difficile, nos fondamentaux et notre stratégie devraient permettre de nous réinscrire dans une dynamique de croissance, et ce, dans nos 3 activités. Je profite de cette occasion pour une nouvelle fois saluer l'état d'esprit et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du groupe dans cette période particulièrement compliquée pour nous tous. Je voudrais vous dire aussi que nous devons plus que jamais prendre conscience de notre culture, de notre état d'esprit, de faire en sorte que dans cette période très difficile, nous ayons un comportement exemplaire, que nous ayons plus que jamais envie de respecter la valeur cardinale du groupe qui est le respect, que nous nous intéressions aux autres, à ceux qui nous entourent, que nous comprenions quelles sont leurs difficultés, que nous soyons solidaires. C'est fort, tous ensemble, que nous réussirons à traverser cette période complexe. Le groupe a beaucoup d'atouts, une solidité financière exceptionnelle, une équipe de collaborateurs de grande qualité. Il faut que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Je suis particulièrement confiant en cette période d'année pour pouvoir faire que 2020 soit malgré tout une belle année pour Bouygues. Merci et bon courage. Voilà. Avec quelques bafouilles, mais... Je me rebâche. Bon, Pierre, merci.
La spéciale. Je tiens juste, quand vous avez un moment, l'édito de la montée de Milan. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Donc, on aurait dit Philippe Bonnard.
Bon, et là, attends.
De toute façon, il y a tout le temps qu'on peut enregistrer, il y a des cuts, on fait ce qu'on veut. On voit ce qu'on veut. Ça fait l'avantage. Non, c'est vrai, c'est sûr. C'est une manière pour ça, je pense aussi pour que vous puissiez vous faire une vidéo, mais après, c'est une crise, quoi. Parce que, par exemple, oui, c'est ça, c'est vrai.
Mais il va venir après, il va venir.
Philippe Hamquin, au bout de quelques secondes, dès maintenant, tu peux être directement en public.
D'accord. Bon. Je me remets la barbe dans l'axe.
C'est les éoliennes de Fécamp, c'est ça?
Oui. Parce que toi, tu fais la présentation de tes comptes, et puis c'est ça. Alors, c'est pas la peine que. Parce que moi, je commence par. Bouygues Construction a décidé de vous faire la présentation d'un grand. Je sais peut-être si tu le fais, je sais pas.
Tu enchaînes tout de suite. Tu enchaînes tout de suite. Moi, je vais t'envoyer la balle. Donc, tu vas pas recommencer.
D'accord. Donc j'enlève mon premier paragraphe.
Et tu finis sur quoi, en ce qui concerne ?
Je rajoute une phrase, je passe la parole à Bertrand pour vous présenter Philippe.
Moi, je dis que je te...
J'avais commencé comme ça, donc je le dis.
Oui, donc comme vient de le dire Philippe, tu dis comme tu le fais à la...
Je ne vais même pas dire comme vient de dire Philippe.
C'est bon, comme vous voulez.
Attends, un petit détail.
Oui.
Comme Philippe a l'intention d'introduire le sujet,
ouais.
J'enlève mon premier paragraphe. D'accord. Donc, dès que Philippe introduit le sujet, tu passes à stade 1.
Dès que...
Ouais. OK.
Pour bien vérifier qu'on s'est compris,
Ça, c'est là.
Voilà, ça. Je la passe pendant la conclusion de.
Non, mais dès que ça bascule, dès que ça bascule sur moi.
Ok, impeccable. Quand vous voulez.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter en première slide une vue de la future Arena de Paris, un des deux équipements structurants pour les Jeux Olympiques, avec le Centre Aquatique Olympique, qui sera également réalisé par nos équipes. C'est un deux très beaux succès commerciaux de ce début d'année. En ce qui concerne donc nos grands chiffres, à commencer par l'activité commerciale, vous voyez que nous avons un carnet de commandes à hauteur de 23,2 milliards d'euros à fin juin 2020, c'est-à-dire que c'est un plus haut niveau historique. Cela reflète une prise de commandes élevée au premier semestre, notamment grâce à Bouygues Travaux Publics et l'opération HS2 en Grande-Bretagne pour 1,1 milliard d'euros et le parc éolien en mer de Fécamp pour 200 millions d'euros. La prise de commande est plus faible en France. Cela est dû essentiellement au Covid, comme vous le savez. La France a été un des pays le plus impacté en termes d'arrêt d'activité. La prise de commande à 23,2 milliards, bien sûr, s'explique aussi par le ralentissement de la consommation du carnet, toujours en raison de la crise sanitaire. Vous voyez la répartition entre l'énergie et services et le bâtiment et travaux publics. Et si on décompose en trois entités, ben nous aurons à peu près un carnet un tiers, un tiers, un tiers pour l'énergie services, le bâtiment et les travaux publics. En matière de répartition géographique, vous voyez que la France pèse 38% de ce carnet de commandes, le reste étant réalisé à l'international, mais France plus Europe, nous sommes à 72%. Maintenant, un mot sur les résultats et les chiffres clés de Bouygues Construction. Non, ce n'est pas la bonne slide. Si on pouvait passer la slide sur les chiffres clés de Bouygues Construction.
Pardon, il y a une erreur. J'ai fermé cette slide, il faut que je la retrouve.
Donc on va tout recommencer.
Désolé.
T'es ému?
Généralement, tu montes sur la
scène. Ça ne va pas avec la barre. ton départ en retraite.
Calibré par les textes, la loi. Donc, là, c'est mon pote.
Chargé, fiscalisé. Ah ouais, voilà. C'est pour ça que tu vois que les gens, quand ils partent en retraite, ils sont réglés.
T'as une autre approche, c'est de te faire virer juste à
vous. Oui, mais alors là.
Voilà, cette fois-ci c'est bon avec toutes mes excuses.
Mais t'es pardonné, on recommence
merci.
Tout ou on
oui,
fait
oui,
quoi
s'il te plaît, oui.
On recommence tout
oui, oui, merci.
D'accord.
Oui, tu pourrais citer BTB qui fait aussi la passerelle du
c'est bon.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter en première slide une vue de la future Arena de Paris, Porte de la Chapelle. Cette Arena est un des deux grands équipements structurants qui seront réalisés pour les Jeux Olympiques avec le centre aquatique olympique qui a également été gagné par nos équipes. Et donc c'est un très beau succès commercial, d'autant qu'il associe les équipes de Bibat Île-de-France, des travaux publics et de Bouygues Énergie Service. Je vais vous parler maintenant des grands chiffres de Bouygues Construction. Donc vous voyez que le carnet de Bouygues Construction s'établit à 23,2 milliards d'euros à fin juin 2020. C'est un plus haut niveau historique. Alors bien sûr, il provient d'une prise de commande élevé au premier semestre à 6,3 milliards d'euros, en particulier grâce à deux opérations de chez Bouygues Travaux Publics qui sont HS2 en Grande-Bretagne pour 1,1 milliard d'euros et le parc éolien en mer de Fécamp pour 200 millions d'euros. Ce carnet provient également du ralentissement de la consommation de notre carnet antérieur, en raison, bien sûr, de la crise sanitaire. Vous voyez également que la France est un peu en retrait en matière de prise de commande. Je rappelle que la France a été un des pays les plus arrêtés en termes d'activité, et donc ça se ressent dans notre carnet de commandes. Un focus également sur la répartition, à la fois entre nos différents métiers. Vous voyez que l'énergie et services pèsent pour 6,9 milliards d'euros. Et si l'on répartit entre l'énergie et services, le bâtiment et les travaux publics, on aura un carnet qui sera à peu près équilibré, un tiers, un tiers, un tiers. Géographiquement, vous voyez que la France pèse 38% de ce carnet. Et France plus Europe, nous sommes à 72%. Quelques mots sur les chiffres clés de Bouygues Construction. Donc, notre chiffre d'affaires est en, bien sûr, au S1 en repli à 5 milliards 321, très impacté en France pour les mêmes raisons que précédemment. Le retrait est essentiellement lié à la crise sanitaire. Le résultat opérationnel courant s'établit à moins 95 millions, moins 1,8%. Et le résultat net par du groupe, lui, s'établit à moins 66 millions parce que ce résultat net intègre une plus-value de cession sur une opération que nous appelons Kinder 2, qui
provient de la cession de droits détenus dans 6 sociétés par Axione à notre partenaire Vauban. Dans le petit encart, vous voyez que nous estimons que l'ensemble des résultats sont impactés par la crise sanitaire sur le S1. L'excédent financier net, ça c'est une bonne nouvelle, a été maintenu à un très bon niveau. Alors, bien sûr, 2 facteurs. D'abord, une bonne maîtrise du BFR durant la crise et surtout le décalage du versement des dividendes qui sera effectué au deuxième semestre. Voilà pour ces grands chiffres. Je vais passer la parole à Philippe Pamquin, directeur général de Bouygues Travaux Publics, et Bertrand Burchel, directeur général délégué de Bouygues Travaux Publics, qui vont vous parler d'une très belle affaire traitée juste au lendemain du déconfinement, les éoliennes en mer à Fécamp. Merci.
Eh bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Et avant que Bertrand ne rentre dans le détail du projet, il m'est apparu important de replacer ce projet dans son contexte, et plus particulièrement dans la stratégie de Bouygues Travaux Publics en tant que constructeur d'infrastructures de production d'énergie. Alors, cette stratégie a été définie après analyse de la cartographie des moyens de production d'énergie. Quelle est-elle ? Alors, pour bien la comprendre, il faut avoir à l'esprit que c'est dommage, c'était bien parti. On la refait. Voilà, on se remet au début. Bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Et avant que Bertrand ne rentre dans le détail du projet, il m'est apparu important de replacer celui-ci dans son contexte et plus particulièrement dans le cadre de la stratégie de Bouygues TP en tant que constructeur d'infrastructures de production d'énergie. Alors, cette stratégie a été définie après analyse de la cartographie des moyens de production d'énergie et regardons-la ensemble. Pour bien comprendre, il faut avoir à l'esprit que ce qui caractérise la production énergétique tient pour l'essentiel en 3 domaines. D'une part, les énergies carbonées, donc émettrices de gaz à effet de serre, bien connues que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Celles qui ne le sont pas, qui sont plutôt des énergies renouvelables, l'hydroélectrique, le solaire, l'éolien. Et entre les deux, le nucléaire, puisque ce n'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie quand même qui, pendant la phase de production, n'émet pas de gaz à effet de serre. Et puis, autre critère important, quelle est la disponibilité de cette énergie ? Et bien évidemment, parce qu'il faut faire face à la demande et notamment à ces pics de demande. Et là, on retrouve dans cette partie à la fois le nucléaire, puisqu'on peut effectivement délivrer des mégawattheures à la demande, ainsi que, bien évidemment, le gaz, le pétrole et le charbon. Alors, quant à l'hydrogène, qui est indiqué en bas de la cartographie, quelquefois présenté d'ailleurs comme une nouvelle source d'énergie, le nouveau pétrole, il s'agit finalement d'une manière astucieuse de stocker de l'énergie. En effet, l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel, ou du moins d'une manière très parcimonieuse, et en fait, il faut le produire. Pour le produire, il y a 2 types de production d'hydrogène, soit par électrolyse de l'eau, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, à la condition sine qua non que l'électricité ayant servi à l'électrolyse soit elle-même verte, ou bien par traitement chimique, en fait, d'énergie fossile, que sont, là une fois encore, le gaz et le pétrole. Alors, on le voit clairement, la production d'électricité aujourd'hui est au cœur du mix énergétique et seul moyen d'inscrire résolument la production d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre. Donc, Bouygues TP a délibérément choisi d'être un acteur majeur d'infrastructures de production d'électricité. Décarboné, c'est le cas du nucléaire, en étant le constructeur européen de centrales nucléaires, avec Olkiluoto, Flamanville, Hinkley Point C, demain Sizewell et Bradwell au UK, et espérons-le, puisque la compétition est rude, en tant que futur constructeur de la première paire de réacteurs EPR2 en France. Et bien sûr, énergie verte. Alors d'une part, en maintenant notre compétence en termes de construction de barrages, malheureusement, le nombre de sites qui s'y prêtent sont de moins en moins fréquents et donc cette activité a tendance à diminuer. Mais surtout en se positionnant depuis une dizaine d'années en tant qu'acteur de solutions d'embase pour l'éolien, plutôt maritime, puisque le terrestre est quand même sujet à beaucoup de controverses et d'une technologie beaucoup moins technique. Bouygues Tempé a ainsi, avec la start-up Ideol, réalisé le premier et seul producteur d'embase flottante, permettant l'implantation donc des champs au large des côtes, là où le vent est d'une part plus fort, mais surtout beaucoup plus régulier. Et surtout, Bouygues Tempé a accompagné EDF et initialement Alstom depuis presque 10 ans pour la conception et réalisation des embases gravitaires de Fécamp, dont Bertrand va vous parler. Et je voudrais conclure en disant que Bouygues Construction s'est partout mobilisé comme un acteur du segment de l'énergie verte, puisque Bouygues Énergie et Services s'est fortement mobilisé à la fois sur le solaire et à la fois sur l'hydrogène vert. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Bertrand.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit Philippe, le projet de Fécamp s'inscrit directement dans cette stratégie, dans la catégorie éolien en mer. Il y a un éolien un peu particulier, puisque c'est un éolien qui est posé au fond de la mer. Il s'agit d'un champ de 500 MW par 30 mètres de fond, où les éoliennes reposent sur une sorte de pile, de pylône, de pied de parasol, qui est posé au fond de la mer. Un client, qui est la société éolienne offshore des Hautes-Falaises, qui est en fait l'assemblage d'une co-société entre EDF et Enbridge, qui est une grosse société canadienne, et puis WPD, qui est un acteur allemand du renouvellement durable. En ce qui concerne notre groupement, Bouygues s'est associé à Saipem, qui est un acteur bien connu italien dans les travaux offshore, notamment dans le domaine pétrolier, parapétrolier. Et puis Boskalis, hollandais, qui est une des grandes entreprises de dragage dans le monde. On va s'arrêter un moment sur le parcours commercial, puisque ça a été un parcours de patience et de résilience. Alors, de 2010 à 2012, on accompagne EOHF, ce qui est maintenant notre client, dans son appel d'offres, dans sa réponse à l'État, puisque l'État concède des champs, dans sa réponse à l'État pour concevoir le champ de Fécamp. Malheureusement, nous ne ferons pas partie de l'aventure définitivement. Et en 2014, EOHF lance un appel d'offres pour la partie fondation gravitaire en béton, qui est la partie que va construire le groupement. De 2014 à 2016, on développe des solutions au passage de 4 concurrents, on passe à 2, puisque Dragados et Vinci se font éliminer. Et on reste en concurrence avec Eiffage sur une solution que vous voyez appelée fondation transportée par flottaison. Un des gros enjeux de ces fondations, c'est on les préfabrique à terre et il faut les emmener en mer et les couler. Et c'est un moment particulièrement délicat techniquement pour ces fondations. On avait regardé la solution développée par Eiffage. Elle paraît simple, pas besoin de matériel. La fondation flotte et puis s'autocoule par ballastage. Maintenant, si l'été est passé, on ne joue plus dans la piscine, mais si on joue avec une bouteille de cette forme-là dans la piscine, elle aura une tendance furieuse à vouloir se retourner. Donc c'est finalement assez délicat. Pour traiter ce problème, c'est la photo de droite, on a développé un catamaran qui en fait vient serrer la fondation, qui est toujours en semi-flottaison, pour la stabiliser et ensuite la couler. On est dans un financement de projet, notre client doit faire appel au marché et il a besoin de sécurité. Et on sent en 2017 que notre solution ne lui apporte pas plus que celle des Fages d'ailleurs, la sécurité qu'il recherche. On change donc radicalement de méthode et on décide de transporter les fondations sur des barges, méthode beaucoup plus classique, et de les poser en mer avec un bateau amiral, un très gros navire sur lequel je reviendrai plus tard. Enfin en 2018, on est pressenti pour un contrat de 525 millions d'euros pour 83 fondations. Malheureusement, en juin, l'État décide de renégocier les tarifs, cherche de l'argent et notre client accepte 30% de baisse. Le projet est sauvé grâce à ce geste et on ne cotisera qu'à hauteur d'un petit demi-pourcent, plus à l'échelle de nos marges. En juillet 2019, c'est un projet comme tout ce type de projet en France qui est attaqué par les sociétés, par des organisations plutôt environnementales. Les recours sont purgés, mais un mois trop tard, pour un problème de saisonnalité, on est obligé de reporter le projet d'un an. Malheureusement, trois mois après, notre client perd son turbinier General Electric, est obligé de passer un accord avec Siemens. Seulement au passage, on passe de 83 éoliennes de 6 MW à 71 éoliennes de 7 MW. Autrement dit, on s'engage, en ce qui nous concerne, dans une course de réingénierie à marche forcée pour pouvoir repenser l'objet qu'on avait designé. En 2020, négociation s'ensuit et le contrat passe à 552 millions d'euros, une augmentation substantielle pour moins de fondations. Et enfin, malgré la Covid, qui a été le dernier risque qui a failli tuer le projet, le client décide de closer et de mettre en œuvre son projet. En quelques mots, on fait plutôt quelques images, justement une description. Les images parlent d'elles-mêmes. Je vais revenir simplement insister sur quelques challenges qui nous attendent. D'abord, c'est un objet complexe. Il est soumis à la houle. Il est soumis à une éolienne qui a des régimes vibratoires très variables selon le vent. Donc, c'est un outil complexe, un objet complexe à designer en termes de béton. Ensuite, c'est un objet qui comporte des équipements électromécaniques, puisque un certain nombre d'équipements sont installés par notre groupement à 54 mètres de hauteur entre l'éolienne et puis le câble de captation de l'énergie. C'est un chantier de rapidité. On a 18 mois pour construire les fondations, 120 000 mètres cubes de béton. Toutes les fondations sont construites avant d'être emmenées en mer. Et on va pousser les techniques du Lean, inspirer l'industrie au maximum, puisque chaque fondation est découpée en 11 tâches, 4 lignes de produits, 44 équipes qui doivent toutes respecter un timing de 10 jours en séquence intime. Et le ballet doit se dérouler comme ça pendant 18 mois. Un chantier de matériel, 16 grues de très forte capacité, 39 ascenseurs, des moyens maritimes très particuliers pour transporter les fondations sur leur site de pose, 3 barges de 200 mètres de long. Pour transporter les 5000 tonnes unitaires de chaque fondation, il faut un ensemble de multiroues capable de porter l'ensemble, de franchir la marche jusqu'à la barge, et il faut stabiliser la barge qui, elle, est en flottaison. Un travail 7 jours sur 7, 24 heures continue. Et puis, le fameux navire amiral, il y en a deux de cette capacité dans le monde. Capacité de levage de 14 000 tonnes, c'est grosso modo deux stades de foot, 15 étages de hauteur, et surtout un cycle de 13 heures par pose de fondation, et pour un total de 63 jours de campagne en mer. Alors, de grandeur du coût d'un tel navire, c'est le demi-million d'euros par jour de travail. Il ne faut donc pas s'endormir. Et puis Fécamp, c'est une aventure humaine, c'est quelques dizaines d'hommes avec beaucoup de rebondissements depuis 10 ans. C'est un peu moins d'un millier pour les deux prochaines années. Et puis c'est une aventure qui s'inscrit dans une aventure plus large, qui est celle des travaux maritimes pour les objets en béton à la mer, qui est un des domaines à la croisée en plus des énergies vertes que creuse Bouygues Travaux Publics, qui a fait son succès dans des objets complexes comme l'extension en mer de Monaco, la digue de Tanger, le port de Calais, et qui est un marché d'avenir, puisque le marché de la mer, c'est potentiellement des extensions en mer, l'élévation du niveau des océans avec des protections à réaliser, un jour peut-être des usines directement traitant les produits en mer, et Fécamp est une étape dans ce parcours à forte valeur ajoutée. Merci.
Monsieur Pélisson commence à jardin court, il commence à court. C'est pas lui qui prendra la zapette.
Yeah. D'accord. Ara, il faut que tu te mettes en place, parce que nous, on va y aller. Je peux peut-être les avancer, moi. Je peux les avancer ou pas? Non. Bon, alors, de toute façon, quand je finis ma slide, OK. Voilà. Bon, on prend la suite. Merci. Bonne journée. Oui, oui, au moins. On attaque, c'est vous nous donnez le go?
C'est bon, quand vous voulez.
Et la caméra est où, déjà? Les deux d'en face, là-haut. C'est là-haut, là? D'accord. D'accord. Donc, OK. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, premier semestre de TF1. Avec une activité. Ah là, ça commence mal. Hein. Voilà. Moi je reste sur la mosaïque, hein, puisque je fais comme au conseil d'administration, je commande toute la mosaïque. Si vous voulez, je les passe. Hein.
Entendu, désolé.
Ouais, parce que.
Non, c'est bon, j'ai compris.
OK. Alors, je recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'activité du groupe TF1 au premier semestre, c'est d'abord cette mosaïque extrêmement variée qui résume assez bien notre histoire sur ces derniers mois, avec à la fois une réinvention de nos programmes pendant le confinement et puis immédiatement à la rentrée pas mal de nouveautés. L'actualité la plus récente étant évidemment en haut à droite le football avec le fait qu'on ait acquis deux matchs pour relancer la dynamique des programmes et cette demi-finale et finale de la Champions League dans un format un peu inédit qui a permis de faire d'excellentes audiences d'entrée de jeu. Sur la gauche, c'est évidemment la licence de marque Téléfoot qui a été aussi une innovation et avec le lancement de la chaîne Téléfoot qui permet au marché eh bien, de découvrir, dans le cadre de la télévision payante, une nouvelle chaîne et de valoriser la marque du groupe TF1, tout en gardant notre magazine le dimanche matin. Aujourd'hui, la chaîne sera reprise, ça a été annoncé par SFR, par Bouygues Télécom et puis par Free, récemment annoncé. Donc, on est assez... optimiste pour le succès de cette chaîne. Ça a été évidemment pendant le confinement des formats réinventés, notamment sur Koh-Lanta, sur The Voice et Ara Aprikian vous en parlera dans quelques minutes, avec évidemment le lancement d'une nouvelle saison avec quatre équipes sur Koh-Lanta. Et puis c'est surtout la rentrée au côté info. Qu'on vient de vivre la semaine dernière, cette semaine, avec une grille renforcée sur LCI, avec notamment l'arrivée de la star suisse ou de TSV5 Monde, Darius Rochebain, entre 20h et 22h, d'Éric Brunet, et puis évidemment David Pujadas, Marie-Aline Halimi, Pascal de la Tour-du-Pin, enfin un certain nombre évidemment des présentateurs clés qui continuent d'être présents et d'assurer d'excellentes audiences à LCI. Nguyen, avec un nouveau feuilleton, Ara en reparlera de Ici tout commence, qui sera lancé à l'automne. Une actualité forte pour Nguyen, qui a repris absolument tous ses tournages pendant l'été, Et puis évidemment, côté Unify, avec Marmiton, qui, comme Doctissimo, a fait des audiences formidables pendant le confinement. Un peu moins bien sur la monétisation, mais il n'y avait pas de publicité digitale. Ce qui s'est renforcé côté régie publicitaire avec l'arrivée de Sabine Agro du groupe Dentsu. Un mot sur les audiences, avec évidemment une concurrence face au service public qui, lui, n'a pas dû faire d'économie pendant ce premier semestre, puisque assis sur la redevance. Et donc un TF1 qui continue à bien performer, à maintenir ses écarts avec la 6, notamment, vous le voyez, sur les femmes responsables des enfants, des achats en bas à droite, et puis les 25-49 ans. On voit bien l'activité très forte des chaînes info, qui évidemment, pendant le confinement, ont bénéficié d'une forte activité. Donc LCI tire bien son épingle du jeu. Mais CNews également est assez présent, et donc on le verra sur cette rentrée, la bataille est là, pas à n'importe quel prix, on l'a redit encore ces derniers jours, on ne veut pas aller vers une foxisation de LCI, et on est plutôt dans le débat d'idées et le maintien d'un certain nombre de valeurs et de hauteur de vue sur LCI. Côté chiffres, ce premier semestre s'est traduit évidemment par une forte baisse du chiffre d'affaires du groupe TF1 avec 261 millions en moins, 23%, notamment sur la publicité puisque c'était 207 millions d'euros, donc quelque chose de jamais vu avec notamment avril et mai où les annonceurs ont drastiquement coupé leur budget publicitaire. Forte réactivité des équipes d'ARA, de Thierry Tuilier au niveau de la maîtrise des coûts des antennes, puisqu'on a été capable d'économiser 24% de ce que l'on avait dépensé l'an dernier, environ 450 millions, donc une économie de 107 millions d'euros, qui nous fait énormément bien et permet d'avoir un résultat opérationnel encore positif à 68 millions d'euros, là où évidemment l'année dernière on était à 163 millions d'euros. Donc quelque chose d'assez tendu qui a fait que vis-à-vis des marchés financiers, on a préféré renoncer à nos objectifs 2020 et 2021 de façon à ne pas mettre de pression inutile ni sur notre cours de bourse, ni sur les équipes, étant donné qu'on était évidemment sortis de nos plans par rapport à ces résultats. La rentrée est évidemment caractérisée par quelques changements qui ont eu lieu pendant l'été, importants pour le groupe, c'est-à-dire enfin l'accès de la publicité pour le cinéma à la télévision, et ça vous le verrez sur vos écrans avec évidemment maintenant des films qui vont être en promotion, et puis des tendances sur juillet et août qui ont été plutôt favorables côté reprise et retour des annonceurs, on l'a vu sur les matchs de football, donc un certain optimisme par rapport à ce que pourrait être cette rentrée et la relance, on l'espère, économique de notre pays. Je vais maintenant passer la parole à Ara. On a pensé avec Ara qu'il était important à la fois de revenir un petit peu sur la réactivité dont on a dû faire preuve côté programme, de vous donner quelques teasers et quelques indications des programmes de la rentrée, parce que vous allez voir, on a une belle richesse de programmes pour la rentrée, et puis surtout de revenir aussi sur la 4K, parce qu'on peut en parler côté, évidemment, intérêt des opérateurs telco, et on le sait, c'est précieux pour Bouygues Télécom. Dans un moment où on regarde de plus en plus la télévision via des petits écrans, le fait d'embellir l'expérience des téléspectateurs sur des grands écrans en 4K est très importante. Merci.
Bonjour, merci Gilles. Alors, comme nous avons vécu, comme nombre d'entre vous, un début d'année totalement atypique et particulièrement paradoxal en ce qui concerne le groupe TF1, pendant que les recettes publicitaires étaient affectées et que l'approvisionnement en programmes frais était interrompu, le rôle essentiel de la télévision était rappelé à tous. En effet, la crise a renforcé la télévision dans sa mission essentielle d'informer et de divertir. Les rédactions de TF1, de LCI, de TMC ont continué avec courage, avec brio même, leur mission d'informer. Nous avons dû adapter nos grilles en un temps record pour continuer à assurer un lien social et familial fort. Et preuve de ce regain d'intérêt pour la télévision, une hausse très sensible de la durée d'écoute, plus 1h10 pendant la période de confinement. Et depuis la fin du confinement, on a encore une hausse de la consommation de la télévision de 20 minutes. Aussi, alors que la crise du Covid n'est pas terminée, face à une concurrence de tous les acteurs et au décalage d'événements sportifs majeurs, vous voyez aujourd'hui le Tour de France en septembre, il y aura Roland-Garros aussi fin septembre, des matchs de Tour à destination en octobre, nous devons continuer à revisiter notre offre de programmes pour être le plus compétitif possible. Car la concurrence nous oppose désormais non seulement aux chaînes françaises, mais également aux plateformes SVOD internationales. Pour y faire face, nous souhaitons renforcer les contenus qui font l'événement chaque soir. Et pour cela, on a mis un accent particulier ces dernières années sur la fiction française, qui est par définition inédite et exclusive. Dans le passé, nous avons connu des succès spectaculaires avec Jacqueline Sauvage ou Balthazar, mais également des succès internationaux avec La Mente ou Le Bazar de la Charité, deux fictions à gros budget initiées par TF1 et ensuite vendues pour une diffusion mondiale à Netflix. Nous poursuivrons cette politique avec des sujets plus ambitieux et des castings dignes du cinéma. C'est ainsi, cette année, que nous retrouverons une pléiade de grands acteurs dans nos fictions. Ces acteurs incarneront des personnages forts, d'histoires inspirantes, comme celle de Dorine Bourneton, handicapée à 16 ans après un accident d'avion et qui, à la force de sa volonté, obtiendra à 20 ans son brevet de pilote, ou celle de Grégory Lemarchal, jeune gagnant de la Star Academy, atteint de la mucoviscinose. Mais nous continuerons de développer des histoires autour de héros atypiques, comme Munch, Sam, Balthazar ou la nouvelle héroïne d'HPI, HPI pour haut potentiel intellectuel. Et surtout, nous allons continuer l'effort sur la création originale de mini-séries de prestige avec Un homme d'honneur, avec Cadmérade, Gérard Depardieu, Zabou Bretman, ou Une affaire française autour de l'affaire Grégory. Parallèlement au développement des fictions de prestige en prime time, nous avons la volonté de renforcer notre offre de feuilletons quotidien pour accroître la fidélisation du public, notamment en access prime time. C'est ainsi, après le succès de Demain nous appartient, en grille depuis 3 ans, que nous avons proposé un deuxième feuilleton quotidien, Ici tout commence, toujours produit par Nguyen, et qui arrivera à l'antenne cet automne, en ayant pour cadre une école de cuisine située en Camargue. Alors je vous propose de découvrir en images, en exclusivité, un peu toutes ces nouvelles fictions.
La première pilote handicapée à faire de la voltige.
On va partir comme ça, la limite.
La Star Academy a été remportée par Grégory.
C'est pas une histoire de Starac, c'est ta vie.
C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué?
160 de QI.
Au potentiel intellectuel. HPI.
J'adore cette famille.
Je me suis vengé. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Bologne. Ma vengeance est faite.
Ces petites filles qui disparaissent, qu'on retrouve jamais, ça fait peur.
Tu sais où elle est, la petite? Moi, je sais que tu sais où elle est.
T'as plus de recul, tu perds les pédales.
Une fille qui se suicide, ma sœur qui disparaît du jour au lendemain. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas dans l'hôtel.
Je veux cet hôtel. Je l'aurai.
Contrarier deux parties en un seul verdict, c'est pas donné à tout le monde.
Pas faire ce métier pour être aimé.
Je me présente, Auguste Armand. Vous êtes une centaine. Il n'y a que 25 places.
Je ne vous dis pas bonne chance.
C'est pas ça qui vous fera réussir.
C'est vraiment la cour des miracles cette année. Hein.
Soyez patiente. C'est juste une question de temps.
Mais faire l'événement tous les soirs, c'est aussi proposer les plus grandes marques de divertissement et les plus grands événements de sport. Alors, les plus grands divertissements de TF1 sont souvent devenus des marques légendaires, iconiques, comme Koh-Lanta ou The Voice. Nous avons lancé avec succès ces dernières années Masked Singer, Ninja Warrior ou cet été le nouveau jeu Good Singers. Cette saison, nous allons vous proposer un projet de grande envergure, District Z, un nouveau jeu d'aventure co-développé par Satisfaction, la société d'Arthur et TF1, à la manière d'un escape game géant dans un monde peuplé de gentils zombies. Mais proposer les meilleurs contenus impose aussi de magnifier l'écran de diffusion. Nous sommes heureux de la signature d'un partenariat 4K, c'est-à-dire de diffusion de programmes en ultra haute définition avec Bouygues Télécom pour les années 2020 et 2021. Cette offre est également disponible sur Orange avec une programmation du meilleur du cinéma du dimanche soir, d'une offre de spectacle et de sport événementiel. Car oui, le sport, après des mois d'absence, sera très présent sur la grille de TF1 dans les deux années à venir. Avec naturellement, dès septembre, le retour de l'équipe de France, la finale de la Ligue des Champions, que l'on va retrouver maintenant désormais sur TF1, celle de cet été diffusée en finale, le PSG contre le Bayern de Munich a réuni plus de 11,4 millions de téléspectateurs, et les compétitions internationales emblématiques, en 2021, l'Euro masculin de football, en 2022, l'Euro féminin de football et la Coupe du monde de football au Qatar. Alors, je vous propose de découvrir l'ensemble de ces offres de divertissement et notre nouvelle offre 4K à travers ce nouveau film.
Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti.
Première fois, il va y avoir 4 tribunes.
Singer saison 2, c'est parti. Cette année, sous ces masques se cachent des personnalités françaises et internationales.
Soyez les bienvenus dans le District Z. Ouverture de la porte. 5 célébrités vont unir leurs forces, leur mission, s'emparer d'un trésor et surtout éviter tout contact avec les créatures.
Du spectaculaire, du vrai bling bling.
Ah ouais!
Je suis ému là.
Non, t'es bourré.
Je kiffe.
Ouais, je trouve aussi.
Alors oui, la consommation de la télévision est sortie renforcée de la crise, mais le modèle économique publicitaire, comme l'a dit Gilles, a été chahuté et l'approvisionnement de programmes est toujours difficile en raison des difficultés de production. À nous de continuer à nous adapter à la crise, à faire évoluer notre offre pour coller le plus possible aux nécessités d'information et de divertissement des téléspectateurs. Et nous continuerons de proposer une offre d'information statutaire et leader, à l'instar du travail effectué par les équipes de la rédaction dirigée par Thierry Tuilier. Et il s'agit également pour l'antenne et les programmes, avec Fabrice Bailly et Xavier Grandon, de renouveler en permanence l'offre de programmes d'entertainment sur toutes nos chaînes linéaires, mais également nos chaînes non linéaires. Avec pour objectif de préserver le statut incontournable du groupe TF1 pour ses téléspectateurs, pour ses annonceurs, pour ses distributeurs. Vous voyez l'offre de 4K qui est extrêmement nouvelle et intéressante, et asseoir ainsi son modèle économique dans le contexte toujours plus concurrentiel du monde digital. Merci.
Hein?
Oui, oui, ah bah c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Mais bon. Ça va, on a fait un peu pas les 4 minutes.
Charlie, on a combien là? Une minute.
Un poil plus.
Merci beaucoup.